Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirineau.
Les grandes gueules du sport, la dernière heure avec Christophe Cessieux qui est déjà prêt à partir avec Jérôme Coupel, les Coppel direction Roubaix, parce que vous allez commenter ensemble demain, pas l'intégral tour, mais presque l'intégral Roubaix, parce que cette course-là, elle va être quand même assez grandiose dans l'imagine avec le duel Pogacar-Van Der Poel, Denis Charvet est là, Marc Madiot est là, le seul autour de la table qui a un secteur pavé à son nom, voilà.
Le seul qui l'a fait.
Le seul qui l'a gagné.
Il a gagné deux fois.
Non mais Marc,
oui.
Avoir un secteur pavé à son nom quand même, ça fait toujours un truc, non?
Alors c'est un peu comme les douches, tu sais, à Roubaix, t'as gagné, t'as une plaque et tout. Et bon, moi j'aime bien l'humour noir, ça fait un peu cimetière tout ça. C'est bien d'avoir de la reconnaissance de son
pouvoir.
Ouais, souvent, on fait une plaque une fois que le gars est décédé. Là, j'apprécie parce que.
T'attends à profiter.
Après,
tu peux pas.
Retrouvez les deux premières heures des grandes gueules du sport en podcast, évidemment. On va en parler hein, de Paris-Roubaix tout à l'heure. Est-ce qu'il faut souhaiter une victoire de Van Der Poel? Tiens, rapidement, oui ou non, Jérôme?
Oui, n'importe qui sauf Pogacar.
Ah ben voilà, on va en parler tout à l'heure. En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Remportez votre enceinte portable minotée au design épuré de la marque française Lexon. Pour remporter votre enceinte épurée, Christophe Lexon.
Très épurée.
Ouais. T'es d'ailleurs un style épuré.
Très épuré.
Appelez le 32-16 touche 4, envoyez sport au 7-32-16. Je sais pas si c'est un compliment ça. Tu es très épuré toi. Allez tout de suite les GG, vous nous ouvrez la porte de votre vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Les GG, ce week-end, comme tous les ans, on a deux grands événements qui se télescopent. Paris-Roubaix et le Marathon de Paris se déroulent le même jour. Alors, le Marathon de Paris, les meilleurs arrivent souvent avant le départ de Paris-Roubaix, hein, tellement ça va vite maintenant. Mais ce sera demain à suivre sur RMC. Un point commun à ces deux événements, je pense qu'on va tous être d'accord, ce sont deux courses de résilience. Tenir les 42 km 195 pour le marathon et les 30 secteurs pavés sur l'enfer du Nord. Une certitude, toutes et tous finiront complètement rôtis. T'es d'accord avec moi, Christophe?
Ah oui.
Ce sont surtout donc des courses où il faut tenir dans la tête aussi, en plus du physique. Les GG, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle de ça. Savoir se faire mal, comment résister dans la tête et dans le corps, vous l'avez connu à haut niveau, et votre parcours, je pense, peut inspirer peut-être nos auditeurs et auditrices avant de prendre le départ du marathon demain, par exemple. Jérôme, tiens, sur ton expérience, savoir se faire mal. C'est vrai que vous avez l'image des forçats de la route, hein. Vous, on vous prend comme des sportifs de résilience avant tout. Mais c'est inné, ça? Comment tu es allé chercher ça?
C'est inné, je ne sais pas. En tout cas, c'est une des qualités qu'il faut pour être un sportif de haut niveau. Si tu n'as pas ça, si tu ne sais pas te faire mal ou encaisser la douleur, rugby, ça va être des chocs ou des chutes, ou simplement pouvoir repousser ton seuil de douleur plus loin, tu ne peux pas être un sportif de haut niveau. C'est impossible. Après, est-ce que ça s'apprend? Est-ce que c'est inné? Moi, je suis passé par le ski de fond très jeune. Donc, très jeune, tu apprends à te faire mal. Si vous avez regardé les Jeux Olympiques, il y a dans peu de sports, on voit des athlètes passer la ligne d'arrivée, s'écrouler, et c'est pas du cinéma, hein, que ce soit les biathlètes, les skieurs de fond, etc.
Ils sont tout baveux, là.
Baveux, ils ont même pas le temps de ravaler leur salive, etc., parce qu'ils sont à la limite de cette fameuse.
Toi, t'as grandi en faisant ça, mais quel plaisir tu prenais à te faire mal, en fait.
Le plaisir, c'est de te voir progresser, et c'est d'avoir après le résultat en bout de ligne qui va te motiver à refaire la même chose de semaine en semaine. Et le ski de fond, à l'époque, quand j'ai commencé par le ski de fond, il y avait pas ce qu'on appelle ces mass start où on part tous ensemble, donc c'était un chrono tous les dimanches. Donc, tu étais bien obligé d'apprendre à te faire mal et au fur et à mesure que tu grandis.
D'où ton niveau de performance
mais
dans
voilà,
les chronos.
Dans les chronos, j'avais pas, je pense, un gabarit fait. Quand on me regardait, on pensait plutôt à un grimpeur qu'à un rouleur. Finalement, j'étais meilleur rouleur que grimpeur. Mais ça, c'est principalement dans la tête, dans ma capacité à me faire mal. J'ai régulièrement, ça va pas être très glamour, désolé, mais j'ai régulièrement vomi à la fin d'un chrono parce qu'une fois l'effort coupé, y a tout qui remonte tellement je me faisais mal. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup, je me lance pas de fleurs du tout, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de cyclistes qu'on fait vraiment que du vélo, parce que dans le vélo, quand on fait une étape classique, on est dans la gestion.
Mais quel plaisir tu prends là-dedans?
une fait. Rouge ou pas.
C'est ça le truc, c'est dans ta tête, tu sais que tu vas en souffrir.
Bien sûr, c'est le dépassement de soi. C'est la meilleure perte possible. Le but du sport, c'est de gagner. Donc si tu veux gagner, tu dois te faire mal.
Il y a un mot pour ça, c'est la compétition.
Mais bien sûr.
Le problème, on grandit à la compétition, à la performance. Donc si tu veux, tu. Mais moi, pour revenir à l'inné dont tu parles, moi je pense que c'est une éducation tout simplement.
De quoi ? La résilience. Ouais, mais à ne pas se plaindre.
Quand tu commences le rugby, tu commences très tôt. Il y a très peu de joueurs de rugby qui arrivent à 20 ans qui disent je vais faire une carrière. Ça existe quasiment pas. Je crois que Jérôme Pion qui avait fait du basket, qui est devenu un grand international.
Le rugby, c'est un jeu.
Oui, non, mais un jeu
différent.
Oui, mais
tu te fais pas mal.
Non, enfin,
tu te fais mal
aussi dans les chocs. Mais il y a les parents qui ne veulent pas mettre leurs enfants en rugby parce qu'ils sont dans les chocs.
Mais le vélo, c'est pas du tout ludique. Quand tu parles de faire de la compétition, c'est pas un.
Oui, mais il y a
le jeu de rugby, t'es obligé de se faire la passe.
Un jeu d'éducation, c'est comment dire, d'anticiper les coups et de prendre des coups, c'est-à-dire d'accepter l'acceptation des coups en fait. C'est ça. Alors les coups, ça peut être physique, mais ça peut être mental. Et c'est l'acceptation. Et on grandit avec ça. Pour moi, c'est une éducation. J'ai commencé le rugby à 6 ans et tous mes frères de jeu, ils ont commencé à 6 ans. Tu commences tout petit et comme toi, t'as commencé très tôt le vélo, j'imagine.
Pas le vélo, le ski.
Marc, t'as commencé très tôt et que.
Non, pas vraiment, mais.
Mais bon,
t'as plus tard. Hein. Aujourd'hui, il y a des écoles de cyclisme comme il y a des écoles de foot et tout. Aujourd'hui, tu commences un gamin en vélo, il peut commencer à 6, 7 ans.
Oui.
Nous, à l'époque, on commençait, on avait 14, 15.
Hein. Non, mais Denis, toi, t'en as joué des matchs où il fallait se surpasser physiquement.
Non, mais on peut parler même de sacrifice, tout simplement.
C'est vrai que c'est un mot qui est beaucoup utilisé dans le rugby, le sacrifice.
Non, mais c'est la vérité. T'es obligé en plus, nous, on est obligé d'avoir le petit copain à côté, mais comme lui, il a besoin de toi. Hein. Il y a quand même. Dans le rugby, c'est très, très, très collectif.
Il y a des matchs où tu t'es dit, j'en peux plus.
Bien sûr, mais j'ai des matchs que j'ai joué, je n'avais pas envie de les jouer, mais j'étais obligé de les jouer.
T'es allé sous des chandelles où tu savais que t'allais charger, que t'allais prendre.
Surtout en rugby, tu peux pas mentalement. Quand je vois aujourd'hui les athlètes qui sont devenus, je me dis, mais comment ils arrivent à mentalement.
C'est un sport de combat,
à rester au même niveau de match après match. Je sais pas comment ils font. Moi, j'ai vécu ça à une autre époque, mais déjà, c'était dur d'enchaîner.
Mais quoi, parfois, t'en as marre de prendre des coups?
Mais oui, t'en as marre de tout simplement, oui, mentalement, tu lâches. Tu dis, bon, mais ce match-là, je me souviens d'un Irlande-France, j'étais pas très en forme, j'avais ouvert un match du tournoi. S'il avait pu ne pas jouer, j'aurais pas joué. Mais
et tu tiens comment à l'objectif?
Ben après, tu t'accroches. Quoi.
Voilà. L'orgueil?
Oui, l'orgueil, le dépassement de soi, mais c'est dur, c'est très dur. Il faut un sacrément de. Je sais pas, tu vas chercher des choses à l'intérieur de toi dont tu ne soupçonnes pas de les avoir.
Marc m'a dit, au savoir se faire mal. T'es déjà allé trop loin?
Oui. Je suis allé au moins une fois dans ma carrière trop loin. Parce que à l'époque, on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. C'était en 88 dans le Gavia, le fameux Giro 88, le Gavia. On a fait l'ascension sous la neige, la grêle, il faisait moins 2, moins 3. On a basculé au sommet à plus de 2000 avec le petit maillot manche courte. J'ai retrouvé d'ailleurs sur les réseaux. Sur Twitter, une photo où j'étais champion de France, on me reconnaît à peine sur la photo en haut du Gavia, et on bascule dans la descente, j'étais avec Jean-François Bernard, on bascule, on était dans le top 15 de la course, on s'est perdu l'un et l'autre, je ne savais plus s'il était devant moi ou si c'était l'inverse. Au bout de quelques kilomètres de descente, j'ai senti que je tremblais. Je savais pas si c'était moi ou si c'était le vélo. Je me suis arrêté. J'ai cru que j'avais cassé mon vélo. J'ai dit non, c'est pas le vélo, c'est toi. J'ai quand même continué. On n'avait pas de kawaii. On n'avait pas d'assistance technique où on met des soigneurs, des kinés, des assistants au sommet des. Là, il y avait personne. J'ai fait la descente tant bien que mal. Il y a Echevarri, qui était le directeur sportif de Delgado, qui me rattrape, qui a voulu me tendre un bidon à travers la vitre il voyait bien dans quel état j'étais. Enfin, tous les courants, on était tous dans le même état. J'étais incapable de lâcher le guidon pour récupérer le bidon. J'ai passé la ligne, j'ai mis 2 heures avant de rentrer dans la douche pour pouvoir me réchauffer. Et de ce jour-là, je n'ai plus jamais supporté le froid et le mauvais temps sur un vélo. C'est, en fait, mentalement, ce jour-là, je suis allé trop loin.
Et ton corps te l'a rappelé après
Et mon corps me le rappelait. Il me le rappelle si j'ai une mauvaise situation qui me remet dans ce type de.
Il te restait 4-5 saisons après derrière dans ta carrière. Ouais, t'as roulé encore 4
saisons. Alors qu'en 85, je gagne Paris-Roubaix sous la neige, la grêle.
Mais c'est ça, en fait, toi, ton ADN, c'était résister à tout.
J'étais en capacité de résister à ça. Et c'était, en fait, tout ça, c'est un exercice de volonté. Le sport, quelle que soit la discipline que l'on pratique, c'est un exercice de volonté. Et on met la volonté et on met des ingrédients là où les autres ne vont pas les mettre et où nous, on va peut-être arriver à faire quelque chose de plus. Et en fait, dans ce Gavia, je me suis retrouvé dans un trip. Et de toute façon, j'étais lancé, j'avais plus le choix, mais je n'avais plus la lucidité.
Mais c'est ça, en fait.
C'est après coup que je me suis rendu compte, je me suis dit là. Non,
mais c'est un bon conseil aussi. C'est ça, c'est un bon conseil aussi pour nos auditeurs et auditrices, parce qu'on a tendance à valoriser le savoir se faire mal, aller au-delà de ses limites, alors que parfois, justement.
Oui, mais la nature est bien faite. Il faut savoir. Ouais, ouais. Je pense qu'il faut savoir se dire.
Se mettre des limites, tu veux dire.
Ouais, stop. Je stop. Et c'est pas.
Mais dans le sport de haut niveau, tu peux pas faire ça.
Si,
bah non, parce que si tu te stops là, dans ton Gavia, bah ta course elle est terminée. Tu rentres à la maison. Bah voilà. Donc t'es bien obligé d'aller plus loin. Le sport de haut niveau, il te pousse à aller plus loin.
Mais exactement. La protection. Il y en a un paquet qui ont abandonné ce jour-là quand même.
Mais j'aurais pas abandonné. J'aurais peut-être pu prendre une veste à quelqu'un qui se trouvait là par hasard.
C'est comme Marc, c'est comme Bernard Hinault qui a perdu la sensibilité de ses doigts sur un Liège-Bastogne-Liège sous la neige.
C'est magnifique à la sortie. Et le Gavia, même si j'ai été trop loin. Je n'ai aucun regret. Je suis fier de l'avoir fait. Parce que j'ai été touché mes limites.
Oui, mais si t'as fait ça, ça vient aussi de ta personnalité, Marc.
Ah ben oui.
Donc on est tous différents, on le sait. Donc il y a cette capacité à se surpasser aussi. Que tu as ou tu n'as pas d'ailleurs.
Marc, toi tu viens d'un milieu paysan où on est dans la dureté, on tient, on ne se plaint pas. Non mais ça joue.
Oui.
Ça, parce que Denis parlait de l'éducation.
C'est un petit peu le regret que j'ai par rapport au sport moderne en général. Maintenant, protocole, comment on appelle ça?
Protocole commotion.
Protocole climatique.
Ah oui, d'accord. On arrête les courses.
Ah oui.
Je comprends pas. Qu'à la limite,
Mais il y a un juste milieu à trouver.
Un juste milieu sur une course à étapes, pas de problème. Mais le Liège-Bastogne-Liège de Bernard Hinault.
Il est mythique pour ça.
Il est mythique pour ça. Et je pars d'un principe. Sur une course d'une journée, t'as le droit d'abandonner. T'as le droit de ne pas prendre le départ, mais tu n'empêches pas les autres de le faire.
97%.
Ils ont envie de le faire.
97%.
Si t'as envie de le faire, il faut laisser les gens le faire.
97% des partants du marathon l'année dernière sont allés au bout. Ce qui prouve bien que quand t'as un objectif, tu as tendance quand même à aller au bout.
Tu restes dans la compétition.
Jérôme. Peut-être justement pour donner un conseil à ceux qui nous écoutent.
Mais il n'y a pas de honte à se retirer
exactement.
Ou à abandonner. Hein.
Exactement.
Il faut laisser aux gens, aux sportifs, le choix de décider par eux-mêmes.
Oui, mais Jean-Marc, c'est quand même lié tout ça. Tu dis les auditeurs, les auditrices, mais c'est lié au sport de haut niveau.
Mais non, oui, mais
on est d'accord, parce que c'est là où tu vas te surpasser, tu vas dépasser tes limites, tu vas aller jusqu'au bout.
Non, Denis, parce que par exemple, sur un marathon, c'est pour tout le monde, ceux qui participent à un marathon, souvent une fois dans leur vie, c'est un dépassement de soi. On parle du mur des 30 km, par exemple, sur le marathon. Jérôme, dans une ascension du Tour de France, quand toi tu joues le général, que tu te retrouves lâché, il reste encore 8 km d'ascension, l'Alpe d'Huez, une chaleur de diable ou le Ventoux. Qu'est-ce qu'on fait pour savoir terminer?
Eh ben, il faut s'accrocher à son mental. C'est le mental après qui va faire la différence.
Qu'est-ce que tu mets en place?
Ben voilà, en fait, il faut ton mental à ce moment-là, quand t'es dans la difficulté, ceux qui vont arriver au 30e kill du marathon, t'es lâché dans une ascension, etc. C'est en premier le mental qui va te lâcher. Il va te dire, arrête, à quoi ça sert de faire ça? T'es un coureur qu'on appelle récréatif, c'est pas du tout péjoratif, c'est pas ton métier, etc. Tu fais le marathon, pourquoi tu t'infliges ça? Tu pourrais être chez toi en train de regarder Paris-Roubaix tranquillement. Pourquoi tu t'infliges d'aller faire ça? Donc c'est ton mental d'abord qui va te dire de complètement te relever. Donc quand t'es dans une ascension par exemple et que tu pètes, ou ceux qui vont être au 30e kilomètre, bah après faut essayer de tromper un petit peu son cerveau, de trouver des subterfuges qui va te continuer d'avancer.
C'est-à-dire quand
donc,
tu trompes le cerveau.
Je me faisais lâcher à 7-8 kilomètres de l'arrivée. Tu sais que c'est long, tu sais que tu peux prendre une valise, donc faut réussir à trouver autre chose. Et moi je faisais kilomètre par kilomètre. Je me disais ok, tu connais ta puissance, on a les datas, on a tout ça, la vitesse en marathon, peu importe. Tu dis ok, je fais un kilomètre, j'essaye de tenir un kilomètre à cette puissance-là, à cette vitesse-là. Tu fais le kilomètre, tu dis, ok, je l'ai fait, j'en refais encore un. J'essaye d'en refaire un. Et d'un coup, il te reste plus que 2-3 kilomètres. Et quand tu es à 2 kilomètres de l'arrivée, ton mental, il switch de nouveau et tu retrouves toujours un petit peu de gaz pour accélérer dans le final.
C'est les petits objectifs.
Et surtout, tu regardes pas la pente, tu regardes pas la ligne droite. Alors, tu laisses pas le net de.
Tout le temps, tu dois regarder loin devant. Sauf quand tu es dans la difficulté. Quand tu es dans les difficultés, tu regardes la roue du mec de devant, tu veux pas la lâcher, les pieds du mec de devant qui sera devant toi au au marathon, et là tu regardes rien d'autre, tu ne lèves pas la tête, tu regardes plus ta montre, tu reviens un peu aux sensations et tu prends step by step, tu prends kilomètre par kilomètre, 500 mètres par 500 mètres, peu importe, tu vas trouver des choses. Pense à autre chose, pense à ta famille, pense à la fête que tu vas faire le soir parce que t'as
mais
fini
si
le marathon.
Mais si tu dis reste 8 kilomètres, t'es mort.
Mais si tu dis reste 8 kilomètres, parce que tu fonctionnes pas comme ça, parce que 8 kilomètres, tu fais un marathon, 8 kilomètres c'est que dalle, t'en as 42 à faire. Mais tu vas calculer 8 kilomètres, ça va me prendre tant de temps.
Ah mais c'est l'enfer.
Et là, c'est en temps et c'est fini. Ouais. Tu dis purée, je peux plus marcher, j'ai des crampes de partout, j'ai encore 40 minutes de course à faire.
Non mais c'est mort. On est dans le vestiaire, savoir se faire mal dans les grandes gueules du sport. Denis, c'est comme dans un match où ça va pas. Regardez le panneau d'affichage, il reste 30 minutes.
Oh, tu regardes pas que le panneau, hein. Tu regardes la sortie, surtout.
Oui, non, mais là, c'est terrible. Du coup, ça devient très long.
Mais oui, c'est très long. Parfois, ça a été très long. Oui, il y a des matchs où c'est très long pour plein de raisons. C'est que mentalement, t'es pas là, que t'as pas envie, que, qu'en face, t'as un adversaire qui est rude, qui veut ta peau. Oui, oui. Moi, je me suis retrouvé dans des circonstances difficiles. Mais bon, comme le disait très bien Jérôme, tu as ton mental qui, tout d'un coup, ça switch.
Je peux pas faire ça. Oui, et en plus, pour le coup, vous, les sportifs de haut niveau, vous avez un stade qui vous regarde, des millions de spectateurs qui vous regardent. Si vous vous plantez complètement, ça peut être un peu.
Après, on en revient à l'orgueil du champion.
Non, mais ce qui te fait tenir,
c'est l'orgueil, non, Marc?
Ouais, c'est enfin, je pense que c'est un exercice de volonté, puis la survie. Moi, j'ai souvenir d'étapes de montagne dans le Tour. Je crois que c'est Sestrière quand Chiappucci gagne. Ça a mis en route d'entrée de jeu au kilomètre zéro. Le peloton est en file indienne. Et tu sens que si tu décroches de la roue qui est devant toi, t'es mort. Et il y avait 90% du peloton qui était dans la même situation. T'étais à l'agonie dans la roue du mec de devant toi, mais tu savais que si tu la lâchais, t'étais mort. Et le mec de devant toi était dans la même situation par rapport à l'autre qui est juste devant.
Mais c'est ce qui peut rassurer.
Et ça, les 200 morts.
Et ça, le pire, c'est si t'imagines que les autres sont pas dans ta situation. Si
ah non, mais tu l'as, là, tu voyais.
Ouais. Là, faut justement bien dire que les autres sont comme toi. Ah ouais. Ils sont dans le même état.
Attends,
que toi.
Tu disais ça, par exemple, sur un chrono, tu dis, je vais vomir, mais il y en a d'autres qui vont vomir, peut-être.
Mais non, je me disais pas ça. Je me disais,
moi,
je vais aller tellement loin que je vais aller plus loin qu'eux et que ça va me faire gagner quelques secondes.
C'est comme Marc, il leur a raconté que le 1er janvier, t'allais rouler sur la neige. C'était après l'exercice de volonté. Tu disais, je fais ce que les autres ne vont pas faire.
C'était un truc que j'essayais toujours de travailler et que j'essaie de communiquer à mes coureurs aujourd'hui. C'est de toujours se dire, travaillez votre volonté. La volonté, c'est ce qui va faire le reste. Ouais. Et tu travailles ta volonté sur des petites choses, des petites bricoles. Il pleut. Je vais quand même rouler. Ah oui, mais il pleut. Oui, mais j'y vais quand même. Moi, j'y vais, l'autre va pas y aller. Toi, t'es sur des trucs comme ça. Des petits détails. Ah ouais, tiens, dis donc, il y a une part de gâteau en plus, là, qui est sur la table, là. On est quatre autour de la table. Il reste dedans, une part. Est-ce que je la prends ou est-ce que je la prends pas?
Elle est à moi.
Ben non, je la prends pas parce que c'est pas bon pour mon petit régime.
Ben ça, je suis incapable.
Qu'est-ce qu'on a mangé?
Qui sont incapables?
Mais là, on parle beaucoup de mental, etc. Bien sûr que les sportifs de haut niveau ont un mental incroyable. C'est une des qualités qu'il faut pour être un sportif de haut niveau. Mais contrairement à ce qu'on pense, les sportifs amateurs ont un mental aussi grand que les sportifs d'élite, voire même plus. Parce que, Marc, tu parlais de la météo, etc. Quand t'es athlète professionnel, ton boulot, c'est de t'entraîner et de récupérer. S'il pleut le matin, tu vas aller t'entraîner l'après-midi, t'attends la petite éclaircie. Celui qui bosse 35 heures par semaine, qui peut s'entraîner que 4 fois dans la semaine, il y va, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau.
Oui, il est obligé d'aller. C'est son plaisir.
Ouais, c'est pas toujours du plaisir.
Alors que le pro, c'est pas son boulot.
Ouais, oui. Voilà, le pro, c'est son boulot, d'accord. Ouais. Mais eux, ils ont la résilience pour et travailler et la vie privée.
D'autant qu'ils n'ont pas les capacités,
ils n'ont pas un stade qui va t'applaudir.
Jérôme, pour les gens qui ne savent pas, toi tu bosses justement avec des cyclistes amateurs aussi qui viennent, qui te demandent des plans d'entraînement.
C'est ce que je dis tout le temps. Moi, j'admire quasiment plus le sportif amateur qui se met un défi un peu dingue. Ça peut être un Ironman en triathlon, ça peut être un marathon, ça peut être une traversée des Pyrénées en vélo, j'en sais rien, mais qui doit bosser 35 heures par semaine, agencé avec sa vie privée, son boulot.
C'est pas dans le confort. Hein,
et non, t'es pas dans le même confort. Et eux le font. Et eux se plaignent beaucoup moins, des fois.
Marc,
et ils le font, ok, c'est leur plaisir, mais il faut quand même y aller.
Savoir se faire mal, on le disait, Paris-Roubaix, c'est la course par excellence de la douleur. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête quand tu as gagné Paris-Roubaix? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Marc Madio pour tenir jusqu'au vélodrome de Roubaix, aller manger tous ces secteurs pavés complètement tarés, et décramponner, mettre le quart de roue à tout le monde?
Non,
Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'exercice de volonté?
Sentir que j'ai ce qu'il faut pour gagner.
Donc c'est quand même l'objectif.
Tu savais que tu pouvais gagner.
Oui.
Ce que disait Jérôme au final, ce qui te fait tenir, c'est gagner.
Gagner, et puis après,
La récompense.
Roubaix, par exemple, c'est quand même un truc particulier, toi. C'est un truc que tu fais qu'une fois par an. Et où tu sais que tu vas aller chercher des trucs que tu n'as pas dans les autres courses. Toi, cet après-midi, il va y avoir la présentation des coureurs. Demain, il va y avoir la course, la ligne de départ, la course. Vous, vous allez être au Vélodrome. L'ambiance, l'atmosphère, les sensations, la perception du truc, ça n'a rien à voir avec le reste. Et quand tu es dans un truc comme Roubaix sur les pavés, tu sais que tu es dans un truc spécial qui t'engage. Et tu sais, enfin, c'est l'endroit où tu sais qui tu es.
Il y a un mysticisme autour qui te pousse à y aller différemment.
Ben oui.
Bah surtout toi, tu marches à ça. Non, mais en vrai, parce qu'on parlait des motivations, toi, tu marches à ça.
Ah oui. 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 Moi, j'aimais et j'aime aujourd'hui à travers les coureurs qui se confrontent à eux-mêmes. T'es en match avec toi-même.
Il y a peu de courses où il y a ça.
Mais sur un Paris-Roubaix, Marc, t'es plus aujourd'hui le patron sportif de cette équipe. Mmh. Est-ce que malgré tout, c'est toi qui vas aller faire le briefing?
J'en sais rien. Demain matin. Mais.
Ah, quand même. Je veux dire, c'est une tradition, ça.
Ouais,
se
mais pas. Ils vont.
Et tu arrives à les surmonter.
Non, mais je pense que j'ai pas besoin de leur parler.
Ah, tu vas juste les regarder dans les yeux comme ça.
Ils vont me voir là. Ils savent que je suis là. Et je pense que pour certains, ça va leur suffire.
D'accord.
Sinon, si jamais vous nous écoutez, il y a le podcast des Grandes Gueules du Sport et du Vestiaire. Vous pouvez télécharger et l'écouter avant le départ de Paris-Roubaix. Demain, le Vestiaire, savoir se faire mal. Je pense que ça va vous inspirer. J'ai plein de messages sur WhatsApp. Hein. Philippe qui nous dit, magnifique débat, ce n'est pas inné, ça se travaille, la motivation, l'autodétermination, peu importe le niveau. J'ai une pensée pour Karine qui fait le 24 heures en course ce week-end. Les courses de 24 heures, vous vous rendez compte. Boris qui me dit, petit objectif et récompense à l'arrivée. Voilà ce qui se tient. T'as raison, Jérôme, quand tu es dans le dur. Boris qui me dit également, à chaque marathon, quand je cours, je pense à la bière qui m'attend à la ligne d'arrivée. Ça peut faire les 5 derniers kilomètres. Voilà, les Grandes Gueules du Sport, on revient dans un instant. On va parler de Paris-Roubaix dans un instant. J-1, l'enfer du Nord. Alors, on va faire rentrer les fantômes, les souvenirs, les pavés, le temps, les baïonnettes, avait dit Marc Madiot. Tous aux abris. On arrive dans un instant.
RMC jusqu'à midi, les Grandes Gueules du Sport.
Georges Quirineau.
Avec Marc Madiot, Denis Charvet, Jérôme Coppel, Christophe Cessieux. Tiens, j'ai des cadeaux à vous faire aujourd'hui à l'occasion du lancement ce samedi de l'exposition Formule 1 au Musée National de l'Automobile à Mulhouse. RMC vous offre vos places dans un lieu mythique qui conserve l'une des plus importantes collections automobiles au monde. L'expo Formule 1 vous propose une plongée historique et technique dans la discipline. Vous pourrez circuler entre monoplaces et objets ayant appartenu aux plus grands pilotes et dont un espace dédié à Juan Manuel Fangio. C'est à Mulhouse, au Musée National de l'Automobile. Pour remporter vos places pour l'exposition Formule 1, appelez vite le 32-16.
Vas-y, Marc.
On peut leur demander au musée de t'envoyer une invite quand même pour Marc Madiot. Ce serait pas mal quand même.
C'est là, c'est déjà à partir d'aujourd'hui.
C'est mort.
Ça commence aujourd'hui. Deux jours. Non, mais regarde, dis-moi demain, tu fais Paris-Roubaix à l'arrivée, bam, tu vas à Mulhouse derrière.
Tu vas
réussir à vendre ça.
Il est plus dingue de sport auto que de sport cycliste.
Allez, dans un instant, les jeux du sport. Mais d'abord, demain, préparez-vous. Grand casting, grands enjeux. Grand décor, grand spectacle attendu sur Paris-Roubaix.
RMC, les GG sur le buzzer.
Mathieu Van Der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor qui va peut-être s'imposer. Il a fait un trou énorme, Mathieu Van Der Poel.
Mathieu Van Der Poel est énorme. Mathieu Van Der Poel, pour Kvaffi, va pouvoir lever les bras et montrer, lever le doigt au ciel.
Avec quel objectif
Très très près, derrière lui, eh bien on retrouve Mathieu Van Der Poel.
Et est-ce que c'est encore possible d'envisager...
Le destin a choisi Mathieu Van Der Poel et il a montré que c'était lui, le roi incontesté. Mathieu Van Der Poel qui va franchir la ligne devant le public, devant sa mère, devant toute sa famille. Et Mathieu Van Der Poel qui soulève son vélo sur la ligne. Mathieu Van Der Poel, vainqueur de Paris-Roubaix pour la troisième année de suite.
On ne savait pas s'il allait
Ils ne vont réussir qu'une chose à faire, c'est le mettre en burning out.
Ça fait le plaisir. Super,
ça fait plaisir. On se sent entouré par une équipe, une solidarité. Tu vois,
tu penses que si tu fais ta plomb, tu vas partir en burning out.
Tu fais les beaux jours d'Adrien Gouin, toi.
Ouais, je sais, mais pas que. Regarde, je fais les beaux jours.
Mais on fait ça qui aime bien, châtie bien, parce qu'on te kiffe, tout simplement.
Moi, je vous aime plus, moi.
123e édition de Paris-Roubaix demain, vous ne raterez rien sur RMC qui délocalise son antenne au vélodrome de Roubaix avec Christophe.
Non, j'y vais pas.
Le meilleur journaliste.
Le meilleur. Au monde.
Avec Jérôme Coppel, avec Maria Azé, la meilleure journaliste. cyclisme. Au commentaire. Ah oui. 30 secteurs pavés disséminés sur 258 km. C'est n'importe quoi quand même comme course. Choc des Titans. Mathieu Van Der Poel, vainqueur sortant, trois fois gagnant à Roubaix. Il peut égaler le record de victoire de Bounen et de Vlaminck pour revendiquer lui aussi le statut de Monsieur Paris-Roubaix face à lui un adversaire irréel. Pogacar, vainqueur des deux premiers monuments de la saison à San Remo et aux Flandres. Les GG, je vous pose la question, c'est le seul monument qui manque à son palmarès, je le rappelle. À J-1, faut-il souhaiter une victoire de Mathieu Van Der Poel pour empêcher la domination de Pogacar? Oui ou non, Jérôme?
Oui.
Marc Madiot?
Je n'ai pas de souhait.
Christophe Cessieux?
Oui.
Denis Charvet?
Non.
On vous attend évidemment au 32-16. Les fans de vélo que l'on a rencontrés hier au micro de Jean Baumel, près des secteurs pavés, ils veulent voir quoi, les fans de vélo?
Pour moi, c'est Van Der Poel le favori. Favori de cœur. Je préfère Van Der Poel Idor. C'est notre poupou des années 2020. Il faut que ce soit le meilleur qui gagne. Pas spécialement Pogacar, mais le meilleur quoi.
J'ai quand même une préférence pour Van Der Poel. Mais ce serait bien aussi si Pogacar pouvait gagner. Beaucoup de gens le décrivent, mais bon, c'est un très beau coureur.
Moi, je suis toujours pour le challenger. Et Pogacar est challenger sur le Paris-Roubaix. Ce serait pas mal, hein, oui. Mais j'ai une petite préférence pour Van Aert.
Bon, Van Aert, c'est pas Marc Madiot au micro là?
Oui, c'est Marc. Non.
Incroyable, tu sais changer ta voix comme ça.
Avec l'IA, on fait plein de trucs.
Faut-il souhaiter une victoire de Van Der Poel? Tiens, d'abord la voix, comme c'est le. Du coup, maintenant il a un statut à défendre en tant que meilleur journaliste cycliste de tous les temps. Christophe, faut-il souhaiter une victoire de Van Der Poel?
Oui, moi je souhaite une victoire de Van Der Poel. Enfin, je souhaite surtout que Pogacar ne gagne pas.
C'est mais tu penses ça. À ton petit commerce.
Mais exactement, parce que alors je pense à mon petit commerce, parce que je me dis que si Pogacar gagne cet après-midi, comme il a gagné Milan-San Remo il y a trois semaines, eh ben ça va être la fin du game. Et il a dit qu'il ne s'alignerait plus jamais sur Milan-San Remo maintenant qu'il l'a gagné. Et je pense que s'il remporte Paris-Roubaix, il ne s'alignera plus sur l'arène des classiques à partir de l'année prochaine. Oui, donc du coup, on aura une course avec beaucoup moins de frissons. Là, regarde, depuis 15 jours, on s'emballe à l'idée d'avoir ce plateau, on s'emballe à l'idée d'avoir la bagarre entre Van Der Poel et Pogacar, ça avait été déjà la même chose l'année dernière. Ça nous fait rêver, ça nous fait frissonner.
Tu veux vivre ça encore plus longtemps.
Mais j'ai envie que ça se prolonge et qu'il remporte Paris-Roubaix la dernière année de sa carrière. Voilà. C'est sa dernière chance, ouais, là, la dernière chance de gagner l'enfer du Nord. Mais pas, ça y est, à 36 ans, Pogacar remporte
enfin. Il veut se faire entendre. Mais surtout, mais c'est beau parce qu'il y a les 5 monuments quand même, Christophe.
C'est l'année où jamais.
Mais oui, mais une fois qu'il essaye, ça convient à faire quoi? Oui, on va en créer deux autres ou trois autres?
Non, mais il rentrait dans l'histoire.
Oui, il a les cinq monuments.
Ça appelle quoi?
Denis, toi, t'es un fan de Pogacar. En tout cas, ouais. Tu t'intéresses encore plus au vélo depuis qu'il est là? Donc, tu as envie de voir ça pour lui aussi?
Ah oui, tout le monde s'intéresse davantage. Mais moi, j'ai envie de voir ce mec aller au-delà de ses limites. C'est-à-dire qu'il annonce ses victoires et il les fait. C'est ça qui est extraordinaire chez lui. J'espère que demain, oui, encore une fois, il va réaliser un exploit. Parce qu'il a raison, c'est le challenger demain, quand même, Poggy.
Et parce que Van Der Poel a effectivement gagné plusieurs fois, il n'a jamais gagné.
L'auditeur, je suis pour les challengers et je trouve que demain, s'il gagne, ça sera un véritable exploit.
Je rappelle les données l'année dernière, c'était son premier Paris-Roubaix à Pogacar. Il était seul avec Van Der Poel avant de partir à la faute lui-même dans un secteur pavé. Et c'est comme ça qu'il avait laissé filer la victoire. Jérôme, tu dis comme Christophe.
Comme Christophe, alors pas que ça soit forcément Van Der Poel qui gagne, mais n'importe qui à part Tadej Pogacar, parce que comme Christophe, j'ai envie qu'il revienne. Alors j'admire le coureur parce qu'il est capable de gagner sur tous les terrains, Tadej Pogacar, mais il faut bien qu'il y ait quelque chose qui lui résiste à Pogacar. On disait ça allait peut-être être Milan-San Remo. Non, pour le tenir un peu. On sent qu'il a déjà un peu de lassitude. Si en plus il gagne tout, comme dit Christophe, il a battu le boss final, le jeu est terminé pour lui. Quel objectif il va avoir après? Ça va pas être de gagner les trois grands tours dans la même année, il va s'en foutre de ça.
Cinquième tour.
Oui, cinquième tour.
Gagner les 21 étapes d'un même tour.
Voilà, donc moi j'ai envie de.
Mais déjà le sixième tour, s'il fait six tours, il n'y a personne à
faire. Il faut gagner un cinquième.
Ouais, mais ça, s'il ne déboulonne pas dans la tête, ça va se faire, ces six tours.
C'est juste une question.
Bien sûr,
c'est plus facile. C'est gagner Milan-San Remo ou Paris-Roubaix.
C'est qu'une question de temps avant qu'il gagne son cinquième tour, son sixième tour et une première Vuelta. Donc moi j'ai envie qu'il y ait une course qui lui résiste et peut-être que Paris-Roubaix, c'est une de celles qui va le résister le plus longtemps parce que. Il y a beaucoup plus de coureurs qui sont capables de le tenir parce que c'est plat. Il y a beaucoup de secteurs pavés, mais on est sur le plat. C'est pas comme au Tour des Flandres où les secteurs sont en montée. Donc voilà, il y a aussi une part de réussite qu'il faut avoir sur Paris-Roubaix pour éviter les chutes et les crevaisons. Donc voilà, moi j'ai envie qu'il ait encore un objectif dans sa carrière pour pas qu'il se dise bon allez c'est bon j'ai tout fait maintenant ciao au revoir.
En fait,
j'ai mérité mes vacances.
Par peur de sa lassitude. Et en
oui,
fait, compressant.
Bien sûr.
Qu'on voit apparaître.
Tout à fait.
Marc, alors toi tu dis j'ai pas de préférence. Faut-il souhaiter une victoire de Van der Poel. Donc toi tu veux laisser la course. Qu'est-ce que tu imagines du coup?
Alors moi j'imagine si on fait les comptes. Depuis Paris-Roubaix l'année dernière, Pogacar a gagné tous les monuments, plus le titre mondial. Demain, il va être face à quelque chose que personne n'a rencontré. Même pas Merckx, même pas Anquetil, même pas Hinault, même pas Kopy. Personne dans l'histoire, demain matin, ne sera à la place ou n'aura été à la place de Pogacar. Pogacar, demain, pour moi, je le ressens comme ça, il va se retrouver dans une vie. Quand on termine notre vie, on est face au néant. À un moment, on se retrouve à la porte du néant.
C'est le goth demain.
C'est demain, déjà le goth. Ouais. Il y a cette porte qui va être entrouverte devant lui. Est-ce qu'il va la franchir? C'est une chose. Mais le plus important, peu de gens reviennent de l'au-delà. Est-ce que lui sera capable d'enchaîner après le passage dans l'au-delà?
Oui, oui.
Parce qu'en fait, la carrière de Pogacar, demain, elle peut basculer.
Dans quel sens?
Dans deux sens. Le sens où, demain, il peut être dans quelque chose de... qui vient d'un autre temps, d'outre-tombe, quelque part. Et il va, s'il gagne Roubaix demain... Il y a le néant devant lui, parce qu'il aura tout eu, il est au sommet du sommet.
Ce sera le coureur absolu.
Ce sera le coureur absolu. Alors, est-ce qu'il continuera à se challenger sur un cinquième Tour de France, sur autre chose? Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. Parce que, on voit bien, il est dans la quête d'un Graal avec Roubaix. Et il a tout gagné depuis Roubaix, où il a fait deuxième l'année dernière. Et tout s'est enchaîné, il a tout gagné.
Incroyable.
Et demain, il est face à un truc que personne dans le vélo n'a rencontré. Personne. Depuis 150 ans, ou à peu près 150 ans qu'il y a des courses de vélo, personne ne s'est retrouvé dans cette situation.
Demain, c'est
il est unique au monde.
Avant et après dans l'histoire du cyclisme.
Jamais. Est-ce qu'il va franchir cette porte?
Tu avais dit, il faudra des baïonnettes sur Paris-Roubaix. Non mais, qu'est-ce qu'il peut faire pour battre Van der Poel, ce qu'il n'a jamais réussi à faire?
Il va falloir qu'il soit un très fort. Et deux, il faudra que Van der Poel soit peut-être un ton en dessous. Et puis il y a pas que Van der Poel,
il y a la chance aussi,
quelque part. Enfin moi je pense que la course de demain, elle est intimement liée au destin. C'est un endroit où tu as rendez-vous. Roubaix, c'est un endroit où tu as rendez-vous avec ton destin. Et tu peux être le meilleur coureur de tous les temps, et il est sans doute le meilleur coureur de tous les temps, comme l'a été Merckx. Mais demain, il a rendez-vous avec son destin. Il a tout gagné. Mais si demain il perd Roubaix, il remet le compteur quelque part. Il remet le compteur à zéro, et c'est ce que souhaite Christophe.
Jérôme, comment battre Van der Poel à Roubaix? Il ne l'a jamais lâché.
Il ne l'a jamais.
Bon, après, il l'a fait une fois.
Hein. Oui, il l'a jamais lâché sur Roubaix. Il l'a fait qu'une fois. Tu l'as dit. Ça va être dur de le lâcher, mais. Alors, la seule manière, à mon avis, de pouvoir gagner, c'est d'user Van der Poel et les autres. On parle beaucoup de Van der Poel, mais c'est Van Aert, c'est Pedersen, c'est Philipsen, voilà. Demain, en plus, normalement, il y a vent plutôt favorable. Donc ça rend la course, voilà, ça va aller très vite, ça peut rendre la course usante. Donc il faut que son équipe roule très vite, très loin de l'arrivée, pour user tout le monde. Parce que là où Pogacar est fort, que ça soit en montagne ou sur les classiques, c'est sur la durabilité, sur garder son niveau. Plus la course avance, alors que les autres baissent un peu de niveau, lui, il est toujours à peu près pareil. Donc le seul moyen qu'il a de battre Van der Poel, c'est de l'user. Et éventuellement, après, d'avoir plus de fraîcheur sur le vélodrome pour peut-être le battre au sprint ou le surprendre, en tout cas. Je vois pas d'autre option. C'est très dur de lâcher quelqu'un sans ennui mécanique. C'est très dur de lâcher un Mathieu Van Der Poel à Paris-Roubaix, quand même.
Tout Pogacar que tu es.
Ce qui m'étonne, en off, on parlait avec Marc, et Marc me disait, il peut le battre au sprint, pour Guy. Ça m'a étonné que tu dises ça.
Il a pris du muscle, hein, Pogacar.
Non, parce que Van Der Poel, un sprint à Roubaix, c'est pas un sprint anodin.
On rappelle, on rentre dans le vélodrome, le vieux vélodrome. Ouais. C'est deux tours de piste.
Ça n'a rien à voir avec un sprint.
C'est du cyclisme sur piste.
Parce que normalement, sur un sprint traditionnel,
demande à Guédon, il gagnerait. Il pourra t'en parler.
Frédéric Guédon, le dernier vainqueur.
Guédon, il a gagné un sprint dans sa vie. Un. Roubaix.
Moi, j'en ai gagné un, c'était au Tour du Doubs. Ça fait.
Allez, rapide tour de table. Votre favori demain, s'il faut en donner un, Jérôme?
Tadej Pogacar.
Marc Madio.
Van der Poel.
Christophe.
Van der Poel, parce que je souhaite qu'il gagne encore.
Denis Pogacar va gagner. Je vais mettre un billet, mais gros.
La cote, elle est pas mal.
2,75 la cote. On n'est pas encore dans les paris,
mais on va demain, effectivement. Évidemment, 123e édition de Paris-Roubaix qui nous met déjà les poils. Hein. Voilà, évidemment, ce serait une journée spéciale demain. C'est la course pour l'éternité, peut-être. Tadej Pogacar. D'ailleurs, on se posera la question demain matin à la une des grandes gueules du sport. Si Pogacar gagne Roubaix, est-ce que ce sera le plus grand?
Est-ce que ce sera le GOAT?
Est-ce que ce sera le GOAT?
Et demain, avec le plus grand journaliste.
Pendant longtemps, j'ai pensé non, c'est Merckx.
Mais là.
Mais peut-être que demain, je dirais oui.
Peut-être que demain,
si tu diras oui, selon la forme. Monuments dans l'année, là.
Selon la forme, peut-être. Ouais. Je rappelle que Merckx a gagné plus de monuments encore. Je rappelle que Merckx a gagné plus de grands tours. Mais il y a la forme qui compte. Vous les avez bien enflammés, les gars. On a envie de vous écouter. Demain, Jérôme, Christophe et Maria Azé, vous serez aux commentaires de Paris-Roubaix. Et Marc, tu seras dans la voiture. Évidemment, sur les secteurs pavés. Et Denis, du coup, a envie d'être là, j'ai l'impression.
Denis, j'écouterai le plus grand journaliste.
Tu viens avec nous demain, non, Denis.
Je vous écouterai.
Allez, du sport arrive dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilino,
Marc Madio, Christophe Cessieux, Jérôme Coppel, Denis Charvet. Tout de suite, on joue.
RMC, les jeux du sport.
Deux contre deux, vous allez défendre un auditeur. C'est la première pour Jérôme Coppel.
Exactement.
Son palmarès est à zéro. Il a tout à faire.
Tout à prouver, tout à gagner.
Voilà,
tu vas voir, c'est pas aussi simple que ça en arrière. Moi, je suis invaincu.
Ouais. Je pense que c'est plus dur que le Gavia sous la neige. Répartition des équipes. Christophe Cessieux avec Jérôme Coppel pour une team Intégral Tour et Denis Charvet et Marc Madio.
C'est gagné.
Parce qu'ils se sont envoyés tellement de fleurs depuis le début.
J'ai écouté un peu, je risque de finir tout seul vu que Christophe est un peu mauvais.
Il s'en va. Tu vas voir, c'est la disparition de Christophe.
Question impossible, je vous rappelle, activable par un seul joueur par émission. Une bonne réponse, c'est 3 points. Une mauvaise, c'est moins 1 point. On accueille nos auditeurs, Curtis et Thierry. Salut messieurs.
Salut.
Bonjour.
Salut. Curtis, c'est toi qui as appelé en premier. Je te laisse choisir ton équipe avec Cessieux Coppel ou Charvet Madio.
Charvet Madio.
Charvet Madio pour Curtis. Thierry, tu es donc.
Ils sont pas confiance en toi.
Avec Cessieux Coppel.
On a senti une grande confiance.
Ah, oui, Curtis, grande confiance.
Je rappelle qu'aujourd'hui, vous pouvez gagner une enceinte portable minotée de la marque Lexon. Allez les GG, c'est parti. Question à une seule réponse. Une seule réponse. Christophe Cessieux, concentré dès le début, s'il vous plaît. Qui est le dernier vainqueur français d'une course à étapes en World Tour?
Moreau.
Jérôme Coppel marque son premier point. Assez sereinement en plus.
Il a répondu, Marc. Je ne sais pas si.
Oui, mais moi aussi, j'ai répondu en été.
Jérôme croit répondre. Non, mais Jérôme est parti.
On respecte les règles.
On respecte
les règles. Un quart de seconde derrière.
On ne triche pas, on est là, on est bon.
Le quart de seconde. Le quart de seconde.
On est beau joueur.
1-0 pour l'équipe, c'est Monsieur Coppel. Question à plusieurs réponses possibles. Plusieurs réponses possibles. Carlos Alcaraz a remporté le tournoi de Monte-Carlo l'année dernière. C'était face à un Italien. Qui?
Pirittini.
Musetti, Christophe Cessieux.
Aïe, 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 aïe.
2-0. Bon, l'équipe Cessieux Coppel. Question auditeur, Curtis et Thierry, c'est pour vous. Vous donnez votre réponse et ensuite votre prénom pour que je puisse savoir qui a donné la réponse. C'est OK pour vous?
OK, c'est OK.
Curtis et Thierry, contre qui, ce samedi, en Ligue 1, le PSG aurait dû jouer sans le report du match?
Thierry, Lance.
Non, il y a eu une réponse.
C'est Curtis d'abord, me dit-on en régie. Bravo. Donc le point est pour l'équipe Charvet-Madio. 2-1. C'est Kian Véran, le producteur qui dessine. Christophe râle parce que c'est donc, un principe
non,
de
non, non, c'est pas que j'ai, on n'a pas reconnu la voix.
Non,
il reconnaît les voix.
Ouais. Il entend les voix.
Question à une seule réponse, les GG. Une seule réponse. Quel est le dernier club entraîné par Didier Deschamps?
L'OM.
Jérôme Coppel, sang froid. Là, c'est le hitman, quoi. Le tueur à gages.
La chance du débutant.
Non, on s'incline pour l'instant.
Question à une réponse. Le plus proche l'emporte. Ce dimanche se déroule le marathon de Paris. Quel est le record du monde du marathon?
2h01.
2h16 secondes.
2h26 secondes.
2h12 secondes.
2h55.
C'est une réponse. Le plus proche, c'était Christophe Cessieu. Oui, c'était 2h35 secondes. Et Denis a donné 10 000 réponses.
C'était toi, c'est moi. C'est Jérôme, du coup.
J'ai mis 2h25.
C'était Jérôme.
C'est combien, c'est, combien, c'est notre équipe, quoi.
Le record? Le record, c'est 2h35. Question auditeur. Curtis et Thierry, c'est pour vous. Quel club de football a annoncé son changement de logo cette semaine?
L'OM.
C'est qui?
Curtis.
Curtis, ouais.
4-2.
4-2.
Heureusement, vous avez un troisième homme, les gars.
Vous pouvez activer la question.
Allez, troisième question auditeur. Oui, parce que
au niveau du premier homme, tu veux, c'est
4-2. Ne perdez pas de temps. 4-2 pour l'équipe Cessieu Coppel face à l'équipe Charvet Madio. Je vous rappelle qu'il y a la question impossible. Question élimination pour 2 points. Ah. Vous répondez à tour de rôle. Une erreur et vous êtes éliminé.
C'était 3 points la semaine dernière, mais je sais pas pourquoi c'est 2 points aujourd'hui.
Non, ça a toujours été 2 points.
Non.
Citez-moi, s'il vous plaît, tous les vainqueurs de Paris-Roubaix au 21e siècle. On commence
au 21e siècle.
Denis Charvet. Bah sinon, on fait un jeu de 10 heures.
Van der Poel.
Van der Poel, c'est bon. Jérôme.
Guédon.
Guédon?
Eh non.
J'ai dit au 21e siècle.
Ah merde.
Aïe.
Marc.
Bounen.
Tom Bounen, bien sûr, Tom Ke. Christophe Cessieu.
Cancellara.
Fabien Cancellara, c'est bon. Denis Charvet.
Là, Van der Poel, 2 fois, il a gagné.
Ah non, mais là, ça marche pas.
Ah ben si, ça a gagné. Pourquoi?
Je te laisse en dire un autre, si tu veux.
Allez, une autre.
5, 4, 3, 2, 1, éliminé. Bon, il n'en reste plus que Marc et Christophe. Marc.
Naven.
Cervey Knaven. Colbrelli, c'est bon.
Christophe, il n'y est plus.
Marc.
Heyman.
Van Avermaet.
Matthew Heyman. Attendez, calmez-vous. Van Avermaet, c'est bon. Marc. Le quart de roue. Le quart de roue d'avance.
Merde. Amoureux.
Et Marc.
Peter.
Peter qui?
Sagan.
Peter Sagan. Christophe Cessieu, 5. On cherche les vainqueurs de Paris-Roubaix depuis 20 minutes. Van Petegem, ça passe. Marc. Les vainqueurs de Paris-Roubaix depuis le 21e siècle. Ah, il y en a, tu vas t'en
venir.
Schmil, c'était avant.
Ah
bon. Christophe,
ta fille.
C'était avant.
Ah non.
Voilà, zéro.
Mais non, mais c'était moi qui avais
commencé.
Non,
mais non, non, pas du tout. Commencé. Pas du tout.
Je vous donne une dernière chance. À tous les deux, juste Marc et Christophe. Le premier qui m'en sort un, gagné. Vas-y.
Stuart O'Grady.
Stuart O'Grady. T'as pas le droit, Marc. Il a couru pour toi. Les 2 points sont pour.
C'est pas possible.
C'est ce Coppel. Ça fait 6-2.
Voilà, question impossible.
Question impossible pour 3 points activés par Denis Charvet. On a la musique? Bah voilà, bien sûr, sinon moi j'y vais pas. Hein. Pour 3 points, pour revenir à 6-5 ou pour perdre. Denis Charvet. Dans les confrontations entre l'Angleterre et l'Écosse au tournoi destination. Comment s'appelle le trophée reçu par le vainqueur de cette confrontation?
La Calcutta Cup.
La Calcutta Cup!
6-5!
Il reste 40 secondes. Question à une seule réponse. Comment s'appelle le tournoi de golf qui se dispute en ce moment à Augusta?
Master!
Le Master 6-6!
Allez, au revoir!
Balle de match, tout va se jouer sur cette question. Quel ancien entraîneur de Marseille va faire son début sur le banc de son nouveau club en Angleterre?
De Zerbi,
Jérôme Coppel! Oh, avec Tottenham!
Oh,
victoire pour l'équipe Cessieu Coppel! Et la victoire est pour Thierry. Félicitations, tu remportes l'enceinte Lexon.
Lexon, marque française d'objets design et connectés, vous offre le cadeau idéal pour tous les amateurs de déco et de design. Découvrez les coffrets et objets dans les grands magasins et sur lexon-design.com.
Bravo Jérôme Coppel, quel
on a du champion.
Ouais, bravo,
là,
bravo Jérôme.
Il est rentré par la porte, il a défoncé la porte. Au commentaire, Jérôme Coppel, Christophe Cessieu de Paris-Roubaix, l'enfer du Nord demain, où sera également Marc Madio. Denis Charvet va rester avec moi pour les Paris RMC dans un instant. Merci les amis, on se retrouve sur RMC.